Vous écoutez
RMC.
Vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Le début ce lundi du procès en appel de l'attentat de Nice. Et pour la première fois, un moment qui sera assurément fort, 9 enfants vont témoigner de l'horreur ce soir du 14 juillet 2016, quand un terroriste a foncé dans la foule sur la promenade des Anglais. Les cours reprennent à Montpellier au collège de la jeune Samara, 13 ans, rouée de coups au début du mois, à distance pour l'adolescente encore choquée. Et la reprise compliquée sur la route ce matin en région parisienne, une partie de la 13 est fermée à cause de fissures sur la route. De gros bouchons ce matin dans le secteur.
Et après le journal, cette décision de justice qui fait scandale. Un père accusé de violence sur ses enfants, condamné en première instance, vient d'être relaxé en appel. Les juges ont reconnu un droit de correction. C'est un arrêt digne des années 50, dénonce l'avocat des enfants. Il défend son parti pris sur RMC dans 10 minutes. Et cette fois, ce sont des enfants qui vont raconter l'horreur au procès en appel de l'attentat de Nice.
Le 14 juillet 2016, l'attaque au camion Bélier qui avait fait 86 morts et plus de 450 blessés. 3000 enfants se trouvaient ce jour-là sur la promenade des Anglais. Et pour la première fois, 9 d'entre eux vont être entendus lors du procès en appel qui commence aujourd'hui. Ils n'avaient pas témoigné lors du premier procès au cours duquel les deux complices du terroriste avaient été condamnés à 18 ans de prison. Ils vont donc le faire cette fois, Thomas Chupin pour RMC avec BFM Nice Côte d'Azur.
Et parmi ces 9 enfants, Kenza, elle avait 4 ans le 14 juillet 2016.
J'ai l'impression que ça nous fait du bien, nous, de dire ce qu'on a vécu ce soir-là.
Et Kenza a des souvenirs très précis, plus précis que ceux de sa maman, dit-elle. Alors à l'audience, elle va raconter ces moments qui l'ont traumatisée.
Quand on était passé sur le camion, je pensais que maman, elle était partie avec le camion. Je me rappelle aussi quand maman s'était relevée du camion, et ben elle avait peur que moi je saignais parce que j'avais son sang sur moi en fait.
Hassim veut lui aussi faire comprendre à quel point l'attentat a changé sa vie. Il avait 6 ans au moment de l'attaque.
À l'école aussi, il y a beaucoup de monde. J'essaye pas trop de me rapprocher des gens. J'ai peur des endroits où il y a du monde, on va dire. Comme le carnaval, j'ai pas pu y aller parce que j'avais peur aussi.
Lors du premier procès, Kimberley avait pu témoigner. Plus âgée, mais encore adolescente, elle avait 16 ans en 2016. Depuis, elle insiste, la parole, même des plus jeunes, est importante.
C'est pas parce qu'on est petit que forcément on comprend moins de choses. On comprend très bien ce qu'on a vécu. C'est important de faire comprendre aux gens. Oui, les enfants, on est traumatisés.
Et pour que ces enfants témoignent de manière naturelle, sans la pression d'une véritable salle d'audience, c'est à distance qu'ils prendront la parole en visio depuis une salle aménagée à Nice.
C'est la reprise des cours ce matin à Montpellier au collège Arthur Rimbaud. C'est le collège de la jeune Samara qui avait été, souvenez-vous, rouée de coups au début du mois. Le rectorat de Montpellier a annoncé hier soir des sanctions disciplinaires à venir contre ses agresseurs. À l'adolescente de 13 ans, elle va reprendre les cours aujourd'hui. Mais alors à distance, hein, pas possible de retourner en salle de classe. Voilà ce que nous dit l'avocat de sa mère, maître Marc Galix.
Aujourd'hui, sa fille ne parle pas, sa fille a peur. Sa fille dort avec sa mère dans un canapé au rez-de-chaussée de la maison qu'elles occupent. Sa fille est pratiquement mutique. Sa fille voit tous les jours, quotidiennement, un pédopsychiatre pour l'aider à sortir de ce traumatisme. Samara ne pourra pas être scolarisée avant la rentrée du mois de septembre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle sa maman a demandé à ce qu'elle puisse suivre des cours dans la maison de sa mère pour quand même ne pas perdre contact avec sa scolarité.
Et un rassemblement des enseignants est prévu ce matin devant le collège, prévu une grève déposée pour dénoncer notamment le silence des autorités jusqu'alors. Et voilà dans quel contexte le Premier ministre Gabriel Attal sera ce matin à Nice pour ouvrir un internat éducatif au lycée du Parc Impérial dans la foulée de ses annonces pour restaurer l'autorité auprès des jeunes après de nombreuses affaires de violence impliquant des adolescents. Ça s'adresse à ceux qui sont sur la mauvaise pente, hein, Cyprien Pézril, du service politique à RMC.
Des mineurs décrits comme à la dérive, accueillis pendant 2 semaines de vacances scolaires, envoyés loin de chez eux, avec l'accord de leurs parents pour combler leur temps libre, les faire sortir de leur environnement et leur donner l'opportunité de retrouver un cadre, explique Matignon. Au programme soutien scolaire, éducation civique et sport, encadré par des professionnels de la jeunesse ou encore par des gendarmes réservistes. Il y a donc cette formule. Pendant les vacances, il y aura aussi, dès septembre, une autre à l'année. 50 000 places sont libres dans 1 600 collèges et lycées du pays. C'est une mesure éducative, défend l'entourage du Premier ministre. Pourtant, ce matin, il ne sera pas accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, mais par celui de la justice. Les syndicats d'enseignants dénoncent d'ailleurs une approche idéologique de l'internat, vu selon eux uniquement comme un lieu de redressement.
La préfète du Val-de-Marne annonce qu'elle va saisir le procureur de Créteil après la polémique du week-end à Villeneuve-Saint-Georges, commune où le maire a fait deux saluts nazis. C'était samedi en plein conseil municipal. Il a depuis présenté ses excuses. C'est un phénomène, pour ne pas dire un fléau, qui prend de l'ampleur en région parisienne. Et 11 maires de Seine-Saint-Denis vont se rassembler ce soir à Pantin. Pourquoi ? Pour demander à l'État d'agir contre le trafic de cigarettes de contrebande qui pourrit la vie d'absolument tout le monde. Écoutez, c'est impossible d'y échapper, Lucas Lobert.
À la sortie du métro, quelques secondes suffisent pour se faire interpeller par un vendeur. Ici au carrefour des quatre chemins, les trafiquants peuvent être des dizaines au plus fort de la journée. Paquets à la main, parfois même sur des présentoirs de fortune faits de cagettes. Léa habite ici depuis plus de 50 ans.
Ils vont comme ça, ils sont tous là. Moi je suis obligée d'aller sur la rue pour passer.
Ces nuisances durent maintenant depuis une dizaine d'années et deviennent insupportables pour les passants. D'autant qu'elles s'accompagnent aussi de violences, comme le constate cette riveraine.
Il y a des concurrences de vendeurs entre eux, avec des bagarres. Et puis il y a eu une rixe à l'arme blanche.
Alors régulièrement la police vient pour sécuriser les lieux.
C'est une envolée de moineaux, tout le monde part en courant, mais ça revient aussi sec parce qu'il reste pas.
Et ceux qui sont en première ligne, ce sont les commerçants. Ils assistent impuissants à ces trafics, avec même des conséquences sur leurs affaires. Exemple avec Sophia.
On a perdu beaucoup de clients. Ils ont déménagé, les gens, oui. Franchement, le chiffre, il a baissé de au moins 30%. Si je trouve ailleurs, franchement, je déménage.
Pour l'instant, seule la police municipale intervient au quotidien. Insuffisant pour les communes concernées qui demandent à l'État plus de forces policières, douanières et juridiques.
À 8h07 ce matin sur RMC, les routes sont très chargées en région parisienne. Plus de 300 km de bouchons, là, au moment où on se parle. C'est bien plus que d'habitude à la même heure. En fait, c'est la fin des vacances à Paris. La reprise ce matin est la mauvaise surprise. C'est donc la fermeture de l'autoroute A13 sur une partie, la partie entre Paris et Vaucresson, à cause de fissures repérées la semaine dernière qui ont été provoquées par un mouvement de terrain. Le souci, c'est que les solutions de repli, l'A13 et le tunnel de l'A86, c'est des solutions qui sont payantes. Marion Gauthier, vous êtes en direct ce matin pour RMC à hauteur du triangle de Rocancourt. C'est compliqué donc ce matin dans le secteur.
Oui, la circulation est presque arrêtée ici, plus fluide sur les autoroutes payantes, même si le tarif augmente en heure de pointe. Ceux qui empruntent l'A14 sont donc les plus pressés, ou les petites entreprises qui veulent éviter à tout prix les bouchons. Mais le passage au péage est douloureux pour beaucoup d'artisans qui passent en secouant la tête. Jean-Christophe, lui, se rend à une formation, les yeux encore gonflés de sommeil.
Là, je suis parti plus tôt, je suis parti à 6h au lieu de 7h. Et c'est cher, 10,60€ je crois. Ben, on n'a pas le choix pour arriver à l'heure au travail. Ben, j'espère que ça ne va pas durer longtemps parce que sinon ça va impacter sur le budget. 10€ une fois, deux fois, mais la troisième, non.
Alors évidemment, chaque sortie vers les routes gratuites est embouteillée et les automobilistes ont pris leur disposition. 1h30 d'avance pour un conducteur rencontré sur la départementale qui mène à Vaucresson à la sortie de la 13. Beaucoup vont devoir longer l'autoroute fermée et traverser toutes les villes jusqu'à Boulogne puis Paris. Reprise difficile, déjà plus de 300 km de bouchons en Ile-de-France d'après le site Citadin. Une situation inhabituelle.
Paris, Monaco, Brest. Voilà le nouveau podium de la Ligue 1 ce matin avec Lille, quatrième en embuscade. Paris se rapproche d'un 12e titre de champion de France. Ça pourrait être le cas dès mercredi. Paris qui a gagné 4-1 contre Lyon hier soir. 11 points d'avance maintenant sur le nouveau dauphin. Monaco qui a gagné de son côté 2-0 à Brest pour le compte hier de la 30e journée.
Quentin Vinet pour le journal Toute l'actualité chaque matin sur RMC. Il est 8h09. La politique à 8h30. Ce sera avec Naila Latrousse, le face-à-face sur RMC et BFM TV. Bonjour Naila.
Bonjour.
Avec Fabien Roussel ce matin.
Oui, le secrétaire général du Parti communiste, plutôt très silencieux. Hein, pas comme le reste de la gauche sur l'annulation de la conférence de Jean-Luc Mélenchon ou la convocation de Rima Hassan par la police pour apologie du terrorisme. Est-ce que ça ne l'intéresse pas ou est-ce qu'il n'est tout simplement pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? On lui posera la question.
Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, tout à l'heure dans le face-à-face avec Naila Latrousse. À tout à l'heure.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Et à suivre cette décision de justice qui fait beaucoup réagir ce matin. Un ancien policier accusé de violence sur ses enfants a été relaxé en appel. Relaxé parce que les juges ont reconnu l'existence d'un droit de correction. Le droit pour les parents d'user de la force dans l'éducation des enfants. C'est un bond en arrière de 70 ans. Voilà ce que dit l'avocat des deux enfants. Son parti pris en direct dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et vous continuez de réagir ce matin à cette chute des températures qui touche la France. Vous réagissez au 32-16 et sur l'appli RMC, rubrique direct studio. Jean-Claude, par exemple, dit qu'il fait ce matin 1,4 degré au Pizou en Dordogne. Et oui, on grelotte et on ressort les doudounes. Véronique, qui habite à Montpellier, on a coupé le chauffage collectif le 1er avril car les températures étaient douces, écrit Véronique sur Direct Studio. Résultat, ce matin, 17 degrés chez moi au réveil. C'est un peu rude, mais on pense aux économies qu'on va réaliser. Voilà, Véronique qui essaie donc de positiver. Richard, de son côté, nous dit que tout est un peu déréglé. Hier, j'ai ramassé mon muguet dans mon jardin. 15 jours en avance, ce n'est pas du tout bon. Et puis, Laurent, lui, nous explique que ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir eu 25 degrés pendant 10 jours au début du mois d'avril. Ce ne sont pas les gelées d'avril. Et vous, comment vous réagissez à cet épisode de froid? Comment est-ce que vous vous y adaptez? Venez nous raconter votre quotidien en ce moment, notamment si vous êtes agriculteur ou si vous travaillez en extérieur. Le 32-16 vous est ouvert. Vous pouvez aussi nous laisser vos messages sur l'appli RMC, rubrique Direct Studio.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
8h13 sur RMC et RMC Story.
Le parti pris.
Le parti pris du jour, c'est le vôtre, maître Jérôme Tibéri. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur RMC. Vous êtes l'avocat des enfants d'un homme qui a donc été relaxé par la justice la semaine dernière. Un homme jugé pour des violences sur ses enfants. En première instance, il avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis, avec retrait de l'autorité parentale. Mais la semaine dernière, il a été relaxé. C'est le motif qui fait beaucoup réagir. La cour d'appel de Metz dit qu'il y a bien eu des violences, mais reconnaît aux parents un droit de correction. Ça vous scandalise, Jérôme Tibéri?
Ça me scandalise parce que vous avez la cour d'appel de Metz qui effectivement reconnaît les violences. Monsieur reconnaît lui-même les violences, elles sont établies dans le dossier, elles ne posent aucune difficulté. Et la cour d'appel de Metz, contre toute attente, vient nous exhumer ce droit de correction. Alors, on se pose la question de savoir pourquoi. Aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Mais c'est vrai qu'à la lecture de cet arrêt, j'étais scandalisé. Il faut savoir qu'il y a quand même deux enfants derrière. Et nous, derrière, on les ramasse à la petite cuillère et c'est vraiment pas évident pour eux.
La cour d'appel écrit qu'il est reconnu à tout parent, je cite, le droit d'user d'une force mesurée et appropriée à l'aptitude et à l'âge de leur enfant. En fait, la cour estime qu'à partir du moment où c'est proportionné et qu'il n'y a pas de caractère humiliant, en gros, ça peut passer.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est les termes qui ont été utilisés par la cour d'appel. Alors, on nous a parlé de violence éducative. Pour moi, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Mais dont acte, c'est la position de la cour d'appel. Moi, il faut qu'on m'explique comment on peut parler de proportionnalité, comment on peut parler de défaut de caractère humiliant quand on étrangle des enfants, quand on les frappe, quand on les humilie, parce qu'il y a eu des humiliations dans ce dossier.
Alors justement, de quoi on parle précisément pour qu'on comprenne bien de quelle violence cet homme est-il accusé?
C'est ça la difficulté dans ce dossier, parce que finalement aujourd'hui on vient résumer ça au droit de correction, mais c'est pas ce que dénoncent les enfants. Les enfants viennent expliquer quand même qu'ils ont été victimes d'étranglement, qu'ils ont été victimes de claques, de gifles, que lorsqu'ils devaient faire leurs devoirs, on posait l'arme de service à côté d'eux sur la table pour les contraindre à faire leurs devoirs. Donc on est au-delà de ce qu'on pourrait appeler le droit de correction, de la fessée, malgré les évolutions législatives qu'on a eues depuis.
On est au-delà. Pardon, l'arme de service, parce qu'on va quand même préciser que cet homme est policier, professionnel.
Tout à fait. Tout à fait.
On avait quand même en tête un débat, Jérôme Tibéri, c'est que on n'avait pas interdit la fessée en France. Mais moi, c'est exactement ce que je me suis dit. C'est on a pendant des années fait tout un débat autour de est-ce qu'il faut interdire la fessée. Une loi est passée là-dessus.
Tout à fait. On a une loi qui est passée là-dessus. On a toutes les conventions internationales des droits de l'enfant qui viennent vous expliquer que on n'a pas le droit de commettre des violences sur les enfants, qu'elles soient physiques ou psychiques. On a une loi de 2019 qui a modifié le code civil qui vient nous expliquer que l'exercice de l'autorité parentale doit se faire sans violence physique et psychologique. C'est l'article qui a été inséré dans le code civil. Et aujourd'hui. On fait un bond en arrière de 70 ans. On vient remettre tout ça en cause, on vient remettre en cause toutes les avancées. Et j'ai eu cette phrase de dire, si on revient exhumer ce droit de correction du parent sur l'enfant, bah peut-être qu'un jour on aura une décision de justice où on viendra exhumer le droit de correction du mari sur sa femme, voire même au-delà. On va complètement à contresens.
Alors cette décision de justice, vous avez tenté de la faire annuler puisque vous avez déposé un pourvoi en cassation. Il y a même 3 pourvois en cassation puisque le parquet et l'avocat de la mère des enfants ont aussi déposé le leur. Qu'est-ce que vous en espérez? Que peut faire la Cour de cassation? Elle peut mettre fin définitivement à ce droit de correction?
Dans ce dossier, on peut que se féliciter de la rapidité avec laquelle Monsieur le procureur général a formulé son pourvoi. Il a formulé son pourvoi dès le lendemain. Et bien évidemment, avec mon confrère, on s'est associé à ce pourvoi. Qu'est-ce qu'on attend de la Cour de cassation? La Cour de cassation, elle ne vient pas juger à nouveau cette affaire sur les faits. Elle vient juger en droit. Et elle va expliquer si... En France, aujourd'hui, il existe réellement ce droit de correction, ce qui n'est pas le cas. Ça viendrait à créer un nouveau fait justificatif, comme la légitime défense, comme l'état de nécessité. Et on attend que la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Metz pour qu'un nouveau procès puisse avoir lieu et qu'on puisse enfin faire reconnaître les droits de ses enfants.
C'est une façon aussi de corriger le message que ça envoie à toutes les éventuelles autres victimes.
Bien sûr, c'est la Cour de cassation, son rôle, c'est d'expliquer si le droit a été appliqué correctement. Nous, on estime qu'en l'espèce, c'est pas le cas. Et bien évidemment, le message, il va au-delà de ses enfants. Il va plus loin. Il a une portée extrêmement importante. Et c'est important pour toutes les autres victimes aujourd'hui d'entendre que, oui, si elles sont victimes de ça, elles doivent aller déposer plainte, elles doivent faire valoir leurs droits. Et vous aurez des juridictions qui les reconnaîtront.
Oui, ça a provoqué énormément de réactions, d'autant que les juges ont expliqué que cet homme a eu une éducation à la rude, que cet homme a une personnalité forte et entière, comme si ça pouvait finalement excuser les violences. Ça, c'est terrible comme message envoyé aux victimes.
Ah, bien sûr, c'est un message qui est terrible, mais les mots qui ont été utilisés non seulement dans cet arrêt, mais également à l'audience, ont été très rudes. Vous avez quand même un des témoins qui vient parler d'éducation casque à pointe, qui fait référence aux soldats allemands d'il y a une centaine d'années. On parle d'éducation rude, on parle de tous ces mots qui sont importants. Je pense que le message qui a été donné pour ces enfants et pour tous les enfants, il est contraire à tout ce qu'on peut attendre. C'est pas parce qu'on a eu une éducation qui a été peut-être rude qu'on doit à reproduire ou qu'on doit aller plus loin sur ses propres enfants. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que on n'a pas à légitimer de la violence sur des enfants. Pourquoi est-ce qu'on vient condamner de la violence sur des adultes et à juste titre, et derrière, parce qu'on est enfant, on vient remettre ça en cause? C'est quelque chose qui m'horripile.
Merci pour ce parti pris ce matin, Jérôme Tibéry. Vous êtes l'avocat donc des enfants de cet ancien policier relaxé pour des faits de violence sur ses enfants. Donc 3 pourvois en cassation déposés. On suivra évidemment les suites de cette affaire sur RMC. Merci à vous. Il est 8h20.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Exactement, c'est tous les jours moi.
Avec Arnaud de Manche.
Oh, Amélie.
Oui.
Manu.
Oui.
Martin.
Oui.
Et le nouveau big boss de la matinale, Sébastien Krebs. Dites donc, Sébastien, c'est la première fois que vous faites la chronique avec moi, je crois. Donc, je vous ai mis vos relances en gras. Hein, c'est marqué sur la
feuille. Je vois ça.
Vous en avez une, là. Voilà.
Oui, c'est un honneur d'accueillir autour de cette table l'humoriste le plus doué de sa génération.
Vous voyez, on apprend vite. Hein, ça démarre vite. Inutile de me flatter, Sébastien. On est juste là pour parler d'actu. Alors la grosse info du week-end, c'est le Congrès américain qui a débloqué 61 milliards d'euros de dollars, pardon, d'aide à l'Ukraine, 8 milliards d'aide à Taïwan et rien pour nous. Macron, il était là. Quoi? Nous, on n'a rien alors. On est les David et Laura de Joe Biden. Alors qu'on aurait besoin de toute cette thune. Il y a des déficits partout. Vous savez, on pensait avoir élu le Mozart de la finance. On a élu le Francky Vincent de l'économie. Tenez, là, les Jeux Olympiques ont explosé tous les budgets. Certains parlent de 5 milliards de dépassements. C'est beaucoup, hein. Amélie, votre banquier serait pas content si vous étiez à 5 milliards
de découverts. Ah non, moi je suis sûr qu'il nous écoute et
c'est un peu
pas content.
Too much. Et on estime que le total des coûts serait de 10 milliards. Notre président, là, il a dû appeler Joe Biden en faisant « Allez Joe, s'il te plaît !» Faut encore 2 milliards pour financer le lancer de javelot. Parce qu'on croirait pas, mais ça coûte cher de regarder des Ouzbeks et des Chinois lancer des bâtons. Faut qu'on aménage tout Paris. Alors Biden, il a demandé une vidéo de Paris pour estimer les coûts. Il a vu la gueule de nos rues et il a dit « Oh mon Dieu, les Allemands sont revenus là-bas. » Mes chers compatriotes, j'ai reçu un appel de la présidente française, René Coty. Et j'ai vu l'attaque surprise des forces germaniques sur Lutèce. Les Visigoths sont revenus avec à leur tête Otto von Bismarck. J'ai donc décidé d'envoyer sur place mon secrétaire d'État Henry Kissinger et de faire livrer à la France 10 milliards. Et si les 10 milliards, ça suffit pas pour réparer Paris, on les donne à Anne Hidalgo pour qu'elle démissionne. Allez Anne, on t'a offert une belle île déserte. Bon séjour, et ça serait tout aussi bien pour Paris.
Gabriel Attal a annoncé que les collégiens en zone d'éducation prioritaire devront rester à l'école de 8h à 18h tous les jours.
Oui, alors déjà que l'éducation nationale avait du mal à recruter des profs en Seine-Saint-Denis, si en plus ils doivent bosser 10 heures par jour dans des collèges qui s'effondrent, où il fait moins 12 l'hiver et 47 l'été, avec des élèves enragés à partir de 15h parce qu'ils n'en peuvent plus. Après, c'est super important l'école. Tenez, si nos ministres étaient restés de 8h à 18h en cours de mathématiques, bah, on n'aurait peut-être pas un trou de 20 milliards dans notre budget. C'est, bah, voilà. Alors, une autre priorité de Gabriel Attal, c'est de lutter contre le harcèlement. Mais alors là, je trouve qu'il lutte contre le harcèlement d'une façon où c'est les élèves qui finissent par avoir peur de lui.
Maman, je veux pas aller au collège. Gabriel Attal nous harcèle. Il veut qu'on fasse du 8h-18h, qu'il y ait un couvre-feu le soir et nous faire porter un uniforme moche. Il nous déteste.
Pauvre gosse, c'est cruel. Allez, courage les enfants.
Ingenico, le leader mondial des terminaux de paiement, travaille sur un système pour payer en passant la paume de sa main sur le lecteur.
Oui, ça c'est une nouvelle pour Manu. En fait, on passerait juste la main sur un lecteur de carte bleue. Ça fait tudut. Et il y a un capteur infrarouge qui prend une photo de la main, qui analyse votre flux sanguin, qui authentifie la personne et qui débite son compte. Amélie,
par le flux sanguin.
Ouais. Et voilà. Amélie, je sais que vous êtes féministe. Eh bien, je trouve que ça, c'est une avancée radicale. Féministe. Fait, les filles, si vous mettez un terminal de paiement dans la poche arrière du jean, comme ça, à chaque fois qu'un gros lourd tente une main aux fesses en boîte de nuit, tudut, ça débite 200 balles.
Excellent.
Et croyez-moi,
excellent.
Quand ils verront leur relevé de compte, eh ben, ils vont arrêter tout de suite. Voyez, une belle avancée. Bisous Simone Veil.
Porter son pull sur les épaules est-il de droite? C'est le Figaro.
Oui, bah oui, oui. C'est l'article de la semaine. Alors, justement. Donc voilà, on va expliquer. De plus en plus de jeunes reviennent à cette mode à cause, je cite, du regain d'intérêt de la jeunesse pour les codes bourgeois. Et il existe même, j'ai découvert, des faux pulls avec un faux nœud qu'on peut pas défaire. C'est comme une écharpe. C'est juste pour le look. Chez moi, à Versailles, parce que je viens de là-bas quand même, il y a des gens qui portent des doudounes sans manches avec le pull noué sur les épaules. C'est le combo des intégristes. Pour les cas comme ça, il faut faire appel à Christina Cordula. C'est Madame Fashion Police. Elle arriverait, frère. Oh là là, mon chéri, c'est pas possible. Le pull framboise sur les épaules, c'est pas le style. Et pourtant, Christina, avec mon pull framboise sur les épaules, je peux vous assurer qu'aux universités d'été du RPR en 91, j'en ai pécho de la Marie Chantal stylée. Elle criait Juppé, président, Juppé, président. C'est l'occasion donc, Amélie, vous le réclamiez, de finir avec un petit quiz.
Yes,
ces vêtements sont-ils de droite ou de gauche?
Je vais gagner, je vous préviens.
A gagné un coffret de cravates Brioni. Cravates Brioni, les cravates du monde de l'économie.
Et à moins envie de gagner.
Non, mais je l'offrirai à Manu.
Faut l'offrir à Manu.
Ni de droite,
donc,
ni de gauche.
Vêtements de droite ou de gauche, top, c'est parti. Le serre-tête en velours.
Droite.
Le sarouel.
Gauche.
Non, il y avait un piège. Ça n'est porté que par des enfants bourgeois en rébellion contre leurs parents.
Voilà. Ah, ok, des anarches.
Les talonnettes.
Droite.
Avec qui vous pensez? C'est pas gentil. Le t-shirt avec une photo du Che.
Gauche.
Du cuir et des moustaches.
Gauche.
Ah non, avec Joël Guérillot à Saint-Etienne, c'était à droite. Les chaussures bateau alors que t'as pas de bateau.
Ah bah droite.
Ouais. Le crâne bronzé avec des cheveux ondulés sur l'arrière.
Extra droite.
Les cheveux sales et les dents jaunes.
Extra gauche.
Vous êtes cliché. La chemise rose tirée à 4 épingles.
Droite.
La peau du visage tirée à 90 épingles.
Droite.
Il y a Jack Lang aussi. Enfin, remarque, on sait pas. pas.
Non, c'est droite, arrête.
Les glands qui pendouillent pour décorer les mocassins pour avoir la classe à un congrès au Sofitel.
Droite.
Très à droite. Le gland qui pendouille tout court au Sofitel tout court.
Je ne réponds pas à cette question.
C'est gauche quand même, c'est gauche. Qui c'est qui a gagné les cravates? On va voilà. Oh, c'est quand c'est même moi. Amélie, hein, c'est quand même Amélie.
Donc, je te les offre.
Cadeau, voilà. Cadeau. Voilà. Eh ben, c'est beau toute cette générosité. Amélie. À demain.
À demain. Arnaud Demange dans un instant. La météo et un nouveau journal sur RMC Story. Puis sur RMC, le face-à-face avec Arnaud Roussel face à Neyla Latrousse.
Fabien Roussel. Arnaud, c'est moi.
Fabien Roussel. 8h26.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
8h32 sur RMC et BFM TV. Mon invité est le secrétaire national du Parti communiste français. Bonjour Fabien Roussel.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. L'hiver violence des jeunes qui préoccupe à Grande-Synthe, notamment dans votre région et partout ailleurs en France, avec des agressions de plus en plus violentes qui vont jusqu'au meurtre, jusqu'à l'assassinat. On pense évidemment à Hachem Seddine, à Viry-Châtillon ou à Philippe à Grande-Synthe. J'en parlais. Fabien Roussel, le Premier ministre met sur la table une des solutions qui est de prendre en charge plus vite les jeunes à la dérive. Il arrive dans une heure à Nice, dans un lycée qui expérimente notamment les internats éducatifs. En gros, accueillir les jeunes pendant leurs vacances, les jeunes en décrochage scolaire pour les remettre à niveau avec aussi des cours d'éducation civique. Avant de vous entendre sur les solutions, Fabien Roussel, est-ce que vous dites comme Gabriel Attal, comme la droite, comme toute une partie du spectre politique, oui, il y a un problème de rapport à l'autorité chez les jeunes?
Alors d'abord, je voudrais dire oui, nous sommes effondrés par ces drames que nous découvrons tous les jours dans l'actualité, qui sont plus, qui ne sont pas des faits divers. Ça devient un véritable fait de société, une violence plus forte, plus dure, provoquée par des jeunes de plus en plus jeunes. Ce qui se passe chez moi dans le Nord, à Grande-Synthe, est effroyable. Et quand on découvre ça dans la Voix du Nord, on est effondré, interloqué.
Avec des répliques depuis, un climat de psychose qui s'installe dans la
ville. Il y a besoin de réponses fortes et on doit pouvoir utiliser tous les leviers que nous avons en main. Bien sûr, la sécurité, la justice doivent fonctionner. Et le Premier ministre a saisi ces questions, en a profité pour dire il faut restaurer l'autorité et notamment à l'école et en proposant que les enfants aille à l'école.
Les collégiens de 8h à 18h.
De 8h à 18h.
En commençant par les quartiers prioritaires.
Voilà. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu deux réactions. J'ai dit d'abord, ils voient l'école comme un instrument de punition. C'est une punition, vous allez aller à l'école de 8h à 18h et dans les quartiers prioritaires. Et c'est comme ça que...
Ou de réarmement civique, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron.
J'ai été, ça m'a choqué parce que pendant ma campagne des élections présidentielles, j'ai été le seul, celui qui disait qu'il fallait que nos enfants puissent faire les devoirs à l'école et plus à la maison. Et en contrepartie, il fallait passer plus de temps à l'école. Nous disons, nous, à gauche, qu'il faut passer plus de temps à l'école.
Donc sur le principe, vous êtes pour?
Sur le principe, je suis pour. Que nos enfants aillent à l'école de 8h à 18h, je suis pour. Mais ça ne doit pas être une punition. Ça ne doit pas être une mesure de justice infligée aux quartiers, par exemple, aux jeunes des quartiers. Au contraire, l'école publique que nous voulons doit être la même pour toutes et pour tous. Ça doit être une école dans laquelle nous faisons plus de sport, plus de culture, plus d'apprentissage, plus de sorties.
Mais comment découvrir, on fait Fabien Roussel, sachant qu'aujourd'hui on peine même à mettre un professeur devant chaque salle de classe?
C'est justement ça la question. C'est justement ça. C'est qu'il faut y mettre d'immenses moyens. Or, quoi de plus beau pour un pays, pour la France, que d'investir dans nos enfants, dans l'école publique? C'est le pacte que nous proposons dans les jours heureux que je défends. C'est d'investir, faire de nos enfants une priorité et donc d'investir énormément. Et j'avais calculé, à l'époque, pendant les présidentielles, qu'il y avait besoin de former, de recruter 90 000 enseignants pour pouvoir allonger le temps scolaire, faire en sorte que nos enfants restent plus de temps à l'école, sans demander aux professeurs de travailler plus.
Donc Fabien Roussel,
il faut donc investir massivement dans l'école publique. Or, ce que fait le gouvernement, là, avec ses mesures d'austérité,
c'est de couper les crédits précisément à l'éducation nationale.
691 millions d'euros en moins pour l'éducation nationale, alors que déjà aujourd'hui, il manque des professeurs devant nos enfants, nos écoles. Et donc, la mesure que propose Gabriel Attal, telle qu'il le fait, est injuste, mais en plus, il n'y met pas les moyens. Il n'a aucune ambition pour nos enfants.
Fabien Roussel, vous n'avez pas répondu à ma première question. Est-ce qu'il y a un problème d'autorité, pour autant, chez les jeunes, de respect de l'autorité?
Il y a une perte de repères. Perte de repères, perte des valeurs, refus de reconnaître l'autorité, bien sûr. Oui. Avec des parents qui se désengagent et qui sont déresponsabilisés.
Il faut les responsabiliser, ces parents, Fabien Roussel. Si je comprends ce que vous me dites, vous me dites oui.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut investir beaucoup dans l'école, dans les services publics, dans ces quartiers. Mon collègue Philippe Rio, maire de Grigny, qui a lancé l'appel de Grigny pour toutes ces grandes villes de banlieue, qui souffrent parce que les services publics reculent. Il y a besoin d'investissements massifs. Or, c'est tout l'inverse de ce que nous entendons aujourd'hui. Oui. Nous entendons un gouvernement qui parle de politique d'austérité, de coupes claires dans les dépenses publiques, de demander aux communes de faire des efforts, de réduction de budget dans l'école, dans la recherche.
Enfin, mais Fabien Roussel, pour bien comprendre, pour responsabiliser les parents, votre option, c'est celle d'un Gabriel Attal qui dit qu'il faut notamment sanctionner plus durement les parents défaillants, ou c'est celle de cours de parentalité que notamment mettent en avant un certain nombre d'élus locaux? J'ai pas très bien compris quand vous dites, bien sûr, il y a des parents défaillants qu'il faut responsabiliser.
Bien sûr, il y a des parents défaillants. Mais il y a beaucoup de
parents. Qu'est-ce que cela donne comme solution
d'abord,
à la fin?
D'abord, dans ces quartiers, il faut pas voir. Il faut voir tous ces parents. Mmh. Qui d'ailleurs parfois au sein de d'associations s'engagent, sont exemplaires dans l'éducation de leurs enfants, essayent de s'en sortir dans des quartiers où pourtant beaucoup de où l'État s'est tellement désengagé.
Ça, c'est les parents dépassés.
Et donc nous disons-nous qu'il faut restaurer l'autorité de l'État en faisant en sorte que l'État revienne dans ces quartiers fortement, pas seulement avec le bâton, la police et du bleu. Mmh. C'est pas ça. Derrière, ce que nous demandent les associations, les élus, c'est qu'il y ait des éducateurs, qu'il y ait plus d'accès à la culture, au sport, des moyens de transport, des services publics locaux. Tout ça est parti. Ce sont des quartiers qui sont pourris par les trafics. Pourris par les trafics de drogue, les trafics d'armes. Et c'est pas seulement des opérations XXL qui arrivent une fois tous les six mois.
Et la droite dit, avec parfois la complicité de parents, qui vivent aussi des subsides de ces trafics.
Et qui, tout à fait. Et donc, c'est tous les jours qu'il doit y avoir une opération XXL. Elles sont efficaces quand elles ont lieu, mais c'est tous les jours. Ça peut pas être des opérations de com. Bref, ça nécessite un engagement important. Bien sûr, restauration de l'autorité, des sanctions, mais derrière un accompagnement pour mettre du bleu dans les yeux, pas seulement dans la rue, mais faire rêver, croire à l'ambition collective.
Fabien Roussel, j'ai lu avec beaucoup d'attention la tribune que vous avez publiée dans Libération il y a quelques jours, étonnamment passée inaperçue, puisque faisant le lien entre Chemseddine, donc cet adolescent passé à tabac à Viry-Châtillon par les frères d'une fille avec laquelle il parlait de sexualité, vous faites le lien entre Chemseddine donc et le martyr de Shaina, une jeune fille poignardée puis brûlée par son petit ami à Creil, son petit ami à qui elle venait d'annoncer qu'elle était enceinte. Je vous lis Fabien Roussel. Ces drames ne sont pas des faits divers. Ils reflètent un recul de notre société sur les rapports sexuels amoureux entre adolescents notamment. Ils doivent nous conduire, écrivez-vous, à résister contre un puritanisme, un conservatisme, un extrémisme religieux, autant qu'à un repli sur soi, une coercition sexiste qui ne répand que tristesse, violence et désolation. Plus loin, c'est le sens du combat, dites-vous, que nous menons pour que toute la société se mobilise afin de défendre nos libertés contre toutes les formes d'intégrisme. À quel puritanisme, conservatisme, intégrisme, extrémisme religieux, je vous cite, à quel intégrisme religieux faites-vous référence, Fabien Roussel?
Mais c'est un climat qui se développe, et on le voit à travers ces drames odieux, que ce soit celui de Chemseddine ou de cette jeune fille, Shaina, qui avait été brûlée par son petit ami parce qu'elle avait une sale réputation, parce qu'elle avait des relations avec des garçons, tout comme Chemseddine qui voulait avoir une relation avec une jeune fille, et ce sont les frères de cette jeune fille qui l'ont tué, quoi, violemment. Il faudra que la justice fasse tout son travail pour bien connaître la nature de ces actes. Toujours est-il que ce que je ressens, c'est un recul de notre société.
Sur... Vous utilisez même le terme de décivilisation.
Oui, parce que nous sommes dans une époque où nous avons vécu MeToo, où les atteintes contre les femmes, les violences sexuelles et sexistes sont dénoncées, pointées du doigt, et ils reculent dans l'ensemble. Et pour autant, on voit des pratiques datant d'il y a d'un siècle, où au nom de la réputation d'une femme, eh bien, il faut la punir ou punir
mais
les hommes.
Mais certains vous diraient que vous restez au milieu du guet. Vous évoquez le conservatisme, l'intégrisme ou l'extrémisme religieux. Moi, j'ai entendu Gabriel Attal sur ce même plateau jeudi soir parler de groupes qui cherchent à faire entrer un entrisme islamiste qui prône, dit-il, les préceptes de la charia. Et il reprenait les mots de Bruno Retailleau sur la charia.
Ouais, mais
c'est mais à cela que vous faites référence.
Mais je sais que eux, à chaque fois, vont profiter de ça pour stigmatiser nos concitoyens musulmans et en mettant une focale dessus. Moi, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a un climat. L'intégrisme religieux, il vient de toutes les religions. Et il y a dans toute religion des versions dures, intégristes, obscurantistes, qui font reculer notre société. Dans toutes les religions, ça existe. Religions chrétiennes, juives, musulmanes, ces courants existent et ils sont toxiques. On l'a vu d'ailleurs, les courants catholiques très durs dans des écoles privées hors contrat, la manière aussi dont nos enfants sont traités. Donc, c'est contre toutes ces formes d'intégrisme que je souhaite me battre et il faut que toute la société s'y engage, que l'on soutienne les associations féministes qui dénoncent justement ces comportements et que l'on accompagne mieux nos enfants dans leur... dans leur éducation sexuelle. Donc, la France, justement, a une originalité de ce côté-là. On est le pays de 68, quand même.
Fabien Roussel, donc vous ne reprenez pas le terme de charia de Gabriel Attal et de Bruno Retailleau. Non. Est-ce que vous reprenez le terme de république bananière utilisé par Jean-Luc Mélenchon pour décrire la France, terme qu'il a utilisé après l'annulation de deux conférences qu'il devait tenir à Lille? Est-ce que la France est encore une démocratie, si je devais paraphraser ce qui a été écrit et dit par les Insoumis ce week-end?
En tout cas, il y a de quoi discuter parce que je n'accepte pas justement la décision du préfet qui a décidé d'interdire une manifestation.
Quand vous dites qu'il y a matière à discuter, ça veut dire qu'on peut discuter du fait France soit ou non une démocratie aujourd'hui.
Oui, il y a matière à discuter, oui là-dessus.
Qu'est-ce qui vous fait dire cela au-delà de l'annulation de deux conférences?
Parce que la répression syndicale n'a jamais été aussi dur. Le nombre de militants syndicaux, y compris de la CGT, j'en connais, d'EDF, de GDF, qui sont mis au tribunal aujourd'hui, menacés dans leur emploi parce qu'ils ont été les Robins des Bois, ils ont passé en heure creuse des habitants des quartiers pendant la lutte contre la réforme des retraites, que ce soit des candidats aux élections, comme ceux de la France Insoumise.
Vous faites référence à Rima Hassan,
qui souhaite débattre.
Candidate aux européennes, pour l'expliquer à nos auditeurs, candidate aux européennes sur la liste de la France Insoumise, militante par ailleurs pour la cause palestinienne, qui est convoquée par la police à 50 jours du scrutin pour, je cite, apologie du terrorisme. C'est à cela que vous faites référence?
Je fais référence à tout ça, effectivement, parce que le débat doit avoir lieu, et moi qui suis en désaccord avec des propos et des positions prises par la France Insoumise, notamment sur le conflit israélo-palestinien, pour autant...
Ça vous choque qu'elle soit convoquée, Rima Hassan ?
Ce désaccord ne doit pas interdire le débat. Oui. Et je n'ai pas vu d'apologie du terrorisme dans les propos qu'ils ont pu tenir. Et c'est une manière de museler le débat, de l'interdire. Il faut que nous ayons ce débat devant nos concitoyens et qu'on puisse l'avoir en toute sérénité. Et bien sûr, dans les règles de notre République, sans antisémitisme, sans racisme, sans apologie du terrorisme.
Mais de ce que je comprends, vous êtes choqué par la convocation de Rima Hassan par la police.
Et je lui apporte mon soutien, oui.
Et puis à ce parallèle dressé par Jean-Luc Mélenchon entre Adolf Eichmann, le logisticien de la solution finale pendant la Seconde Guerre mondiale, j'explique pour ceux qui nous écoutent, et le président de l'université de Lille 3, qui avait annulé la première conférence. Oui. Fabien Roussel, est-ce que vous avez été convaincu? Moi, je ne vais pas vous demander de condamner les propos de Jean-Luc Mélenchon.
Mais
il s'est expliqué. Il a dit qu'il faisait référence à Hannah Arendt, à la banalité du mal, aux mécanismes qui conduisent certains à aller à l'odieux. Est-ce que ces explications vous ont convaincu?
Mais c'est bien la raison pour laquelle je ne me retrouve plus du tout dans Jean-Luc Mélenchon, puisque ses propos excessifs discréditent tout le reste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il compare un professeur d'université à un nazi. Il m'a moi-même comparé à un nazi, alors il est discrédité. Je peux rien dire. C'est indéfendable ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Indéfendable. Voilà.
Bon, c'est clair. Fabien Roussel, j'en viens à l'actualité sociale. Vous serez d'ailleurs tout à l'heure dans le Loiret, à la chapelle Saint-Mesmin. J'espère que je le prononce bien. Et si tout le monde ne connaît pas cette commune qui est juste à côté d'Orléans, tout le monde connaît les verres du Ralex qu'elle produit parce que tout simplement, on s'est tous amusés à la cantine à retourner ces verres, à regarder le chiffre et voir quel âge on a, même si il paraît que ces chiffres ne révélaient pas exactement l'âge de l'utilisateur. Qu'est-ce que vous allez dire aux salariés du Ralex ?
Les écouter d'abord. Oui. D'abord les écouter. Et ensuite, les salariés de Duralex souffrent, sont menacés. Oui. Alors, l'usine n'est pas fermée et nous voulons tout faire pour que cette entreprise, cette activité Duralex puisse continuer de vivre. Et j'interpellerai le ministre de l'économie sur ce sujet.
Pour lui demander de voler au secours de l'entreprise.
Le problème posé par les salariés, mais je vais les voir, je vais les écouter cet après-midi, c'est d'abord le coût de l'énergie qui a explosé, et pas seulement pour Duralex.
Et l'État était déjà venu au secours de l'entreprise il y a quelques années.
Pour un grand nombre d'entreprises, la question de l'énergie pèse aujourd'hui comme une charge, une vraie charge insupportable à payer. Le coût de l'énergie a été multiplié par 2, voire par 3 pour de nombreuses industries.
Et qu'allez-vous demander au ministre de l'économie,
Fabien? Je vais demander au ministre de l'économie et des finances de tout mettre en œuvre avec l'actionnaire pour faire en sorte que l'activité puisse se poursuivre en France. Et bien sûr, je vais continuer de demander à ce que les prix de l'énergie soient divisés par 2 ou par 3. Je veux dire un mot sur l'industrie, parce qu'elle est menacée dans notre pays. Il n'y a pas que Duralex.
J'ai des chiffres. D'après le cabinet Altares, le niveau de défaillance d'entreprise est au plus haut depuis 9 ans au premier trimestre. Quelques 17 000 procédures ouvertes sur entre janvier et mars dernier.
Tout à fait. Sanofi, 330 postes supprimés, alors qu'ils ont réalisé un bénéfice exceptionnel. Exxon, au Havre, chez mon ami Jean-Paul Lecoq, 647 postes supprimés. Asco Metal, Metex dans la Somme. Et à Peugeot aussi. J'en viens sur Peugeot quand même. Ouais. Stellantis. Il y a une usine chez moi, à Ordin, plus de 1000 salariés qui produit des véhicules utilitaires. Ouais. Nous apprenons, là, par des sous-traitants, que les moules, les pièces qui servent à ces utilitaires, normalement à Ordin, sont envoyées en Turquie, où la même usine a été construite.
Vous craignez la fermeture de l'usine ?
Nous craignons la délocalisation. Donc, j'interpelle directement le président Carlos Tavares en lui demandant des garanties pour que cette usine voie bien son avenir et les salariés ici chez moi dans le Nord à Sévenneur.
Puisque vous évoquez Carlos Tavares, son salaire a fait couler beaucoup d'encre, 36,5 millions d'euros l'an dernier. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, Fabien Roussel? Son siège social est aux Pays-Bas, il n'est pas en France.
Mais vous vous rendez compte qu'un homme, un être humain, comme vous, comme moi, qui est malade, il vit, il travaille beaucoup. Mais comme les salariés qui travaillent chez lui, 3-8, la nuit, le matin, etc. 36,5 millions d'euros. Oui. Vous savez ce que ça me veut dire? Dans une société humaine, ça, ce n'est pas normal et c'est un recul de civilisation. Ça, c'est un recul de civilisation. Ouais. 36,5 millions d'euros pour un homme, parce qu'il est PDG, ça, c'est de la décivilisation.
On pourrait vous répondre que Stellantis, c'est 15 entreprises, c'est pas juste Peugeot, c'est un groupe mondial.
Une cariste qui travaille justement à Ordin, chez moi, une cariste ou à Lasman, elle gagne 1650 euros net par mois après 20 ans d'activité. Ouais. 1650 euros net après 20 ans d'ancienneté, quand lui, il en gagne 100 000 par jour.
Ouais.
Et en une semaine, le PDG de Peugeot gagne autant que cette femme en une vie.
Ouais.
Et c'est normal, ça? Mais c'est indécent.
Oui, mais
donc, ce que doit faire la loi, le gouvernement?
C'est ça, que fait le politique là-dessus?
Devons légiférer. Et nous proposons, nous, la gauche et toutes les forces de gauche, et c'est la différence avec la droite et l'extrême droite, c'est que les écarts de salaire dans les entreprises ne doivent pas excéder de 1 à 20.
Sauf que l'entreprise est aux Pays-Bas.
Et ben voilà. Et donc, j'allais venir à ça. Ouais. Deuxième chose, c'est que sur ces groupes internationaux, mais français, avec des actionnaires français, dont la famille Peugeot, ces groupes doivent avoir leur siège dans notre pays. Ils sont allés s'installer aux Pays-Bas pour faire de l'optimisation fiscale.
Et c'est en Union européenne.
C'est du vol.
Les élections européennes, c'est dans l'Union européenne.
Et c'est bien la campagne que nous menons avec Léon Desfontaines, notre tête de liste, courageux, valeureux, 28 ans, et c'est le combat que nous voulons porter au Parlement européen, cette lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, le respect du monde du travail, faire en sorte que les hommes et les femmes qui travaillent dur soient respectés dans leur dignité, et qu'il n'y ait plus ces écarts de salaire, qu'il n'y ait plus cette fraude et cette optimisation fiscale, qu'il n'y ait plus ces délocalisations dans des pays tiers, que ce soit dans l'Union européenne ou extérieure à l'Union européenne, comme la Turquie, qui font tant de mal à notre industrie comme à notre agriculture.
D'un mot, Fabien Roussel, est-ce que vous avez reçu votre carton d'invitation pour jeudi, la Sorbonne, le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe ? Jordan Bardella dit l'avoir reçu.
Pas vu, pas pris, mais peut-être que je n'ai pas vu mes mails. En tout cas, pas reçu pour l'instant.
C'est une bonne nouvelle que le président entre en campagne ?
J'espère que ce sera décompté du temps de parole, d'abord, des candidats de la liste de la majorité. Et puis... j'ai tellement entendu de choses de la part du président de la République que je ne crois plus dans ce qu'il dit. Voilà. Et je ne crois plus dans l'Europe qu'il défend. Son Europe, à lui, est une Europe très libérale qui défend justement l'optimisation fiscale, la concurrence libre et non faussée entre les travailleurs. Ce n'est pas du tout l'Europe que nous défendons. Une Europe du progrès social, de la justice sociale et de la paix. Et c'est... pour cela qu'il est important d'aller voter le 9 juin prochain et notamment pour la liste Léon Desfontaines.
Voilà, il est important de rappeler la date
et avec qui je serai.
Le 9 juin prochain, le scrutin des européennes, il n'y a qu'un seul tour, hein, je le rappelle pour
un seul
ceux
tour
qui
à
nous
la proportionnelle, c'est pour ça que les gens peuvent voter en toute liberté, il n'y a pas de vote utile.
Merci Fabien Roussel, il est bientôt 8h53 sur RMC BFM TV.